Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, maintenant, c'est avec David Engels, le philosophe qui ressemble à un mousquetaire. Bonjour David.
Bonjour, bonjour. Fait chaud ici. Je ne sais pas chez vous à Paris, mais en tout cas en Belgique, c'est tout.
Eh bien non, chez nous aussi, c'est assez épuisant, sauf dans le studio qui est climatisé. Voilà, donc je vis ma meilleure journée en étant à l'antenne. Il y a quelques semaines, David, vous nous aviez parlé de l'encyclique de Léon XIV, qui portait entre autres sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Il serait intéressant de savoir comment justement les autres grandes religions se positionnent sur ces sujets, et par exemple l'islam.
Oui, tout à fait. Loin d'être à marginal, la réflexion musulmane sur l'intelligence artificielle connaît depuis quelques années un développement assez rapide, en fait, mobilisant aussi bien les grandes institutions juridiques internationales que les autorités religieuses nationales, les universités islamiques ou les centres de recherche spécialisés. Cependant, vu le manque chronique d'unité du monde musulman, à la fois d'un point de vue religieux et évidemment politique, il n'existe pas aujourd'hui de doctrine musulmane unifié sur l'intelligence artificielle, la robotique ou le transhumanisme. Néanmoins, certaines tendances générales commencent à se dégager. Alors, la position la plus largement répandue, d'abord dans les milieux juridiques musulmans, et il faut rappeler ici que la théologie musulmane est très 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 fortement dominée par la perspective juridique, consiste à considérer l'intelligence artificielle comme une technologie fondamentalement licite dont l'évaluation morale dépend avant tout de l'usage qui en est fait. Cette approche s'inscrit dans le principe classique de Libacha, selon laquelle ou selon lequel toute innovation est présumée permise tant qu'elle ne viole pas explicitement les prescriptions de la loi religieuse. Cette orientation a trouvé une formulation particulièrement claire dans la résolution adoptée en 2025 par l'Académie internationale du Fiqh, donc du droit islamique, organisme juridique dépendant d'ailleurs de l'Organisation de la coopération islamique. Dans ce document, l'intelligence artificielle est définie comme un ensemble de technologies capables de simuler certaines fonctions de l'intelligence humaine. Son développement et son utilisation sont jugés légitimes et donc halal, à condition qu'il respecte un certain nombre de principes. Contribution au bien commun, absence de préjudice, transparence, protection des droits fondamentaux, respect de la religion et préservation de la sécurité individuelle et collective. Une telle position est assez significative car elle montre que l'intelligence artificielle n'est pas perçue comme un défi théologique comparable à ceux que certains observateurs occidentaux imaginent parfois, mais principalement considéré comme un instrument dont la valeur morale dépend de ses finalités.
Alors, c'est intéressant parce que cette approche n'est pas si différente de la position chrétienne, en fait.
Non, pas du tout. Les débats deviennent néanmoins beaucoup plus complexes lorsque l'intelligence artificielle est appliquée au domaine religieux lui-même. Quelque chose que, dans un contexte chrétien, d'ailleurs, nous n'avons pas encore vu du tout. En effet, l'une des questions les plus discutées ces dernières années dans le monde musulman concerne la possibilité d'utiliser des systèmes d'IA pour répondre à des questions juridiques, religieuses donc, ou produire elles-mêmes des fatwas basées sur l'immense matériel du Coran, des hadiths et des grands juristes. Alors les principales autorités consultées se montrent ici relativement convergentes. Ainsi, le site IslamQA, l'une des plateformes de consultation juridique les plus influentes du monde sunnite contemporain, considère que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme outil de recherche documentaire ou d'assistance technique, mais ne saurait en aucun cas constituer une autorité religieuse autonome. Et ce, sur base des arguments évidents suivants. L'incapacité de l'IA à réellement comprendre les textes, l'ignorance du contexte concret des situations, l'impossibilité de hiérarchiser correctement les différentes preuves juridiques et surtout l'absence de responsabilité morale due au fait que l'IA n'est pas une véritable personne. La même distinction apparaît alors dans les déclarations de l'Académie internationale du Fiqh islamique. Lors d'une conférence organisée à Singapour en 2025, son secrétaire général soulignait que l'intelligence artificielle pouvait considérablement faciliter le travail des juristes en accélérant la recherche sur les grandes bases de données, ou en mettant en relation différentes sources classiques les unes avec les autres, mais qu'elle demeurait incapable d'exercer l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle nécessaire à l'élaboration d'une véritable décision juridique novatrice et responsable. Et en effet, dans la pensée islamique classique, l'activité juridique ne se réduit jamais à la l'application mécanique de règles abstraites. Elle implique un jugement humain, une compréhension des circonstances et une responsabilité devant Dieu qu'aucun système algorithmique ne saurait assumer. Malgré ce consensus général, les attitudes concrètes varient quand même considérablement selon les institutions et les pays. Les Émirats arabes unis apparaissent parmi les acteurs les plus favorables à l'intégration des technologies d'IA dans le domaine religieux. Ainsi, le département des affaires islamiques et des activités caritatives de Dubaï vient de développer plusieurs plateformes utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès aux fatwas et aux informations religieuses. Alors que l'Égypte, elle, a adopté une position beaucoup plus prudente. Plusieurs déclarations du Dar al-Ifta ainsi que les représentants de l'université islamique Al-Azhar ont mis en garde contre l'utilisation de systèmes tels que ChatGPT pour l'interprétation du Coran ou évidemment la production d'avis juridiques, théologiques, religieux.
Mais quel est justement le cadre théologique qui permet à l'islam de penser l'intelligence artificielle ?
Alors ce cadre repose principalement sur la théorie des maqasid al-sharia, donc les objectifs ou finalités de la loi islamique. Héritée de la tradition juridique classique, cette approche considère que l'ensemble des prescriptions religieuses vise fondamentalement à préserver plusieurs biens essentiels qui sont évidemment la religion, la vie, l'intellect, la filiation et les biens matériels. De nombreux chercheurs contemporains proposent donc désormais d'évaluer les technologies d'intelligence artificielle à partir de ces 5 critères-là. Une innovation technologique sera jugée favorable si elle contribue à protéger ses objectifs fondamentaux. Elle sera au contraire considérée avec méfiance lorsqu'elle menace l'un d'entre eux. Alors pour passer à la robotique, évidemment liée à l'intelligence artificielle, les débats relatifs à cette technologie présentent un caractère assez pragmatique, du moins pour le moment. Ainsi, les travaux menés notamment dans plusieurs universités malaisiennes montre que certains juristes musulmans s'intéressent avant tout aux usages sociaux des robots, sans doute influencés par les développements des grandes puissances robotiques voisines, donc c'est-à-dire la Chine et le Japon. Les questions les plus fréquemment abordées concernent évidemment l'assistance aux personnes âgées, l'accompagnement des personnes handicapées, la rééducation médicale ou encore certaines fonctions éducatives. Alors que ce genre d'utilisation semble pleinement permissible, l'islam condamne néanmoins unanimement la perspective de robots prenant une apparence humaine, suite évidemment à l'interdiction musulmane de créer une image de l'être humain. Et bien évidemment, ceci s'applique aussi et avant tout à la possibilité d'une utilisation intime de robots doués d'intelligence artificielle, approche très différente du point de vue japonais ou chinois. D'ailleurs, de ce contexte, plusieurs chercheurs ont proposé le développement d'un véritable fiqh de la robotique destiné à fournir des critères permettant d'évaluer les nouvelles applications robotiques à la lumière du droit islamique, ressemblant un petit peu à Asimov et ses différentes lois de la robotique, juste revues d'un point de vue musulman.
Fascinant. Et qu'en est-il du transhumanisme ?
Alors, contrairement à l'intelligence artificielle ou à la robotique, qui demeurent essentiellement des outils extérieurs à l'être humain, le transhumanisme vise explicitement la transformation de l'homme lui-même. Or, plusieurs auteurs musulmans ont souligné que ces technologies posaient de problèmes très nouveaux et nombreux parce qu'elles touchent donc directement à la conception islamique de la nature humaine. Les travaux de chercheurs comme Serdar Kournas, Asim Padella, Rauda Younous ou Ali Randour sont particulièrement représentatifs de cette réflexion car selon eux, le droit musulman dispose certes de ressources lui permettant d'intégrer certaines formes d'amélioration technologique, mais il se trouve confronté ici à des questions tout à fait inédites quand il s'agit de modifier durablement les caractéristiques constitutives de l'être humain. Et donc, on voit ça évidemment avec un immense doute, un scepticisme. Ici, c'est la notion de fitra, donc souvent traduite par la disposition naturelle originelle de l'être humain, qui joue un rôle central. Dans la tradition musulmane, l'homme est conçu comme une créature dotée d'une nature particulière qui est voulue par Allah. Cette conception n'interdit nullement la médecine ou le progrès technique, mais elle tend à introduire une distinction très claire entre la restauration d'une fonction altérée et la transformation radicale de la condition humaine elle-même. Cette difficulté apparaît également dans la dimension rituelle de l'existence humaine. Prière, jeûne, pèlerinage, responsabilité morale présupposent tous un sujet humain identifiable clairement. Les scénarios trans ou post-humanistes, imaginant une fusion progressive entre l'homme et la machine, soulèvent dès lors des questions auxquelles la jurisprudence musulmane n'a pas encore apporté de réponse définitive, tout en prenant des distances très claires avec le risque de nier l'œuvre d'Allah en prétendant l'améliorer. En conclusion, les principales autorités religieuses considèrent donc généralement les nouvelles technologies comme légitimes dès lors qu'elles demeurent au service de finalités conformes à l'éthique musulmane. Les États les plus influents investissent néanmoins massivement dans son développement et les chercheurs musulmans participent activement aux discussions philosophiques internationales sur la gestion de l'IA. En revanche, l'adhésion aux présupposés philosophiques du transhumanisme apparaît très limitée, ce qui suscite les réserves donc les plus profondes. N'est pas nécessairement la question de l'existence ou non de machines intelligentes, mais plutôt l'idée selon laquelle l'homme pourrait devenir un simple matériau biologique indéfiniment transformable et reniant ainsi sa disposition naturelle d'un être créé et donc voulu tel quel par Dieu.
Eh bien, merci beaucoup David Engels. Une partie de vos réflexions me faisait penser, penser aux articles de la revue Études sur notamment l'éthique vis-à-vis des robots à visage humain et à forme humaine. C'est vraiment un sujet remarquable sur lequel il faudra revenir. Merci et à la semaine prochaine. Ah ben non, justement, ce sera fini. Merci et à la rentrée sur Radio Courtoisie.
Ligne droite.
Et pour cette ligne droite, nous accueillons avec bonheur Régis Le Sommier. Donc, merci. Voilà. J'ai oublié quelque chose.
Je vous ai... Le reportage.
Ah oui, nous accueillons Régis Le Sommier, mais avant, un reportage de Benjamin Diesbach sur une manifestation contre le régime iranien, interdite en France, voilà, pendant les affaires, pendant la répression. Il faut que les affaires continuent.
Ce 20 juin 2026, la résistance iranienne avait organisé une manifestation massive, place Vauban, derrière les Invalides. 100 000 personnes étaient attendues de toute l'Europe afin de protester contre la vague d'exécutions orchestrée par le régime criminel des Mollahs. Alors qu'une logistique imposante était mise en place, les organisateurs ont eu la mauvaise surprise d'apprendre l'interdiction de la manifestation par les autorités françaises. Derrière les justifications fallacieuses de désordre à l'ordre public, la réelle politique s'imposait sans complexe. Le petit roitelet de Versailles, aux allures de majordome, et son hôte américain aux manières de plouc, ne souhaitaient pas que le traité de paix, signé entre la poire et le fromage, apparaisse tel qu'il fut. Un accord de la honte, paraphé avec le sang des Iraniens. Azadeh Halemi, porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, dresse un portrait sans complaisance de la situation.
Il faut savoir que depuis le début des conflits en Iran, et après le soulèvement de janvier, le régime a commencé une vague d'exécutions sans précédent. Il y a eu 750 personnes qui ont été exécutées depuis le mois de janvier. Il faut savoir que même avant, le régime iranien, en 2025, avait exécuté plus de 2165 personnes. Et ça montre à quel point le régime a peur du peuple, du soulèvement, de la résistance organisée. Une guerre, une intervention étrangère n'a jamais apporté la démocratie. Les puissances occidentales n'ont jamais voulu changer de régime pour le peuple iranien. Ils ont leur propre intérêt, évidemment, nous le savons très bien. Encore une fois, nous sommes en train de voir que c'est le peuple iranien qui doit payer le prix de la diplomatie. Le prix a été payé par le peuple. Il y a eu des milliers de morts lors des soulèvements et certains ont vendu une fausse illusion au peuple iranien, notamment les sympathisants du retour de la monarchie. Et nous étions là aujourd'hui pour dire que le peuple iranien veut une démocratie, une république laïque et démocratique. C'est pas normal. Nous manifestons depuis des années pacifiquement. Nous n'avons jamais eu de problème. Donc il n'y avait aucune raison pour interdire cette manifestation.
Pour Jahed Madoumi, porte-parole du Conseil national de la résistance iranienne, l'interdiction de la manifestation est la marque infamante d'une politique d'appeasement vouée à l'échec. Le choix entre le déshonneur et la guerre mène toujours à la guerre.
Qui fait partie d'une politique de complaisance avec le régime iranien. Parce que tout de suite après l'accord, Si vous allez avoir une manifestation de 100 000 personnes dans le cœur de Paris, où l'accord était signé avec le régime iranien à Versailles, je crois que ce n'était pas très agréable pour le régime. Mais 4 heures après, bien sûr, c'était interdiction de la manifestation. Il faut vraiment arrêter cette politique d'apaisement. Il faut vraiment arrêter cette complaisance avec le régime iranien parce que le régime, il n'y a pas de futur. Le futur appartient au peuple iranien. La liberté finira par gagner, par triompher.
Ligne droite, l'analyse.
Régis Le Sommier, on regardait le reportage de Benjamin Diesbach sur ces Iraniens qui effectivement ont cru que peut-être le régime allait tomber et qui là se retrouvent à être la population en fait, la plus désappointée. Mais même les Libanais ont sans doute moins d'espoir que les Iraniens.
Plus d'espoir, vous voulez dire ?
Encore moins d'espoir. Libanais ont plus d'espoir plus que d'espoir, les Iraniens, pardon.
Oui, parce que les Libanais savent qu'ils sont au carrefour en fait de ce qui est en train de se passer et que fatalement à un moment ou à un autre les opérations au Liban vont s'arrêter quand je ne sais pas mais je pense dans un futur proche parce que c'est la pierre d'achoppement de l'accord qui est en train de se mettre en place entre Américains et Iraniens. On sent bien que tout est c'est la voie de la diplomatie qui est gagnée là aujourd'hui. On voit bien que avec ces discussions qui se sont ouvertes
à Genève,
dans le canton de Lucerne plus exactement à Birkenstock, voilà,
ça me rappelle quelque chose.
Et voilà, exactement. Et je sais pas si c'est un rapport avec les chaussures, mais bon. Et en tout cas, c'est là que ça a commencé. Il y a les Pakistanais sont là, donc le premier ministre pakistanais, toute la délégation qatari aussi, les usual suspects. Comme on dit, Steve Witkoff et son piqué ploc, Steve Witkoff et Jared Kushner qui sont là, Jed Evans pour les Américains, Abbas Araghchi pour les Iraniens, Mohamed Khalibaf, donc le président du Parlement. Donc on est vraiment dans un tous les crabes sont dans le même panier et ils discutent entre eux. Et c'est pour ça que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la diplomatie a gagné et que de toute façon l'accord se fera. Donc pour les Libanais, je dirais que c'est un message d'espoir. Même si le Liban continue à être bombardé. Et en effet, les énormes cocus de l'histoire sont les oppositions iraniennes. Je dis les oppositions parce que là, on les voit manifester, mais entre les royalistes, les communistes, etc., ils sont extrêmement divisés depuis des années. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'au mois de janvier dernier, quand il y a eu la répression, Donald Trump leur avait adressé un message en leur disant « L'aide arrive, tenez bon, l'aide arrive ». Vous en rendez compte, entre l'aide arrive et le discours de Jed Evans hier, qui est « nous sommes en train d'envisager des nouvelles relations de nature différente avec le gouvernement iranien », ça veut dire qu'on anticipe l'ère de la levée des sanctions et on va composer avec le pouvoir en place directement. On n'est plus du tout dans une sorte de soutien à l'opposition. C'est un petit peu la même chose, très intéressant d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose de ce qui s'est passé avec le Venezuela. Vous vous souvenez de Ana Maria Machado, prix Nobel de la paix, qui avait été, pour être considérée par les Américains dans l'après-Maduro, jusqu'à offrir, se mettre à genoux et offrir, encadrer son prix Nobel à Donald Trump, qui le désirait ardemment à la Maison Blanche. On a bien vu ce que ça a donné. C'est Dulcy Rodriguez, une chaviste pure et dure et adjointe de Maduro qui a repris le pouvoir avec l'appui des Américains. Aujourd'hui, c'est
qui en profite pour expliquer que Machado n'a rigoureusement aucune légitimité.
Oui, alors que bon, c'était l'opposition. Il y avait aussi Eduardo González qui était le président, on va dire, élu. Mais comme Maduro avait truqué les élections, il n'avait pas été élu. Donc le président légitime n'est même pas appuyé par les Américains. En fait, si vous voulez, c'est toujours le même truc. C'est qu'on imagine que quand l'Amérique intervient, c'est pour la démocratie et pour mettre un régime, on va dire, supprimer ou chasser les régimes autoritaires. Erreur absolue. Erreur absolue. Regardez Pinochet. Enfin, dans l'histoire des États-Unis, les États-Unis s'en fichent complètement de savoir si le gouvernement qu'ils mettent en place ou qui va les soutenir dans tel ou tel pays est d'engeance démocratique ou dictatoriale. À partir du moment où ils servent les intérêts des États-Unis, ça leur va très bien. Et là, pour ce qui est de l'Iran, mais je pense que c'est pas nouveau, hein, c'est pas le fait que autant les Israéliens étaient arc-boutés sur la destruction du régime, autant Trump, dès le début de l'intervention, alors il a parlé effectivement de changer le régime, mais quand il a vu que les choses se durcissaient et que on risquait pas d'aboutir à à un tel changement, ben Donald Trump a tout de suite, on va dire, changé son fusil d'épaule et expliqué que on composerait avec un gouvernement, on va dire, et que la nature du régime changerait. D'ailleurs, Donald Trump a même dit la nature du régime a déjà changé. Ça y est, le guide n'est plus là, les nouveaux, voilà, on a un discours, on a un dialogue, etc. Puis plusieurs personnes lui ont rétorqué, lui ont dit, mais attendez, la nature a changé, mais pour le pire. Il s'agit d'un gouvernement. On peut dire aujourd'hui qu'on n'est plus dans le régime des Mollahs, mais qu'on est vraiment dans le régime des gardiens, puisque c'est eux qui contrôlent complètement le pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant, ils ont leurs émissaires, parfois il y a des différences de tonalité. On voit que les gardiens de la Révolution, d'ailleurs, il faut rappeler aussi que Mojtada Khamenei, le nouveau guide suprême, est issu totalement des IRGC, il a été gardien lui-même. Donc, si vous voulez, c'est les gardiens qui contrôlent tout aujourd'hui. Et donc, c'est un pouvoir plus dur, peut-être est-ce plus facile de composer avec lui dans le sens que d'avoir un dialogue par rapport à peut-être une nébuleuse plus confuse qui existait avant, on savait pas très bien qui décidait, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est des militaires, on sait qu'ils sont arc-boutés sur le contrôle du pouvoir, qu'ils sont accrochés à ce pouvoir et que la guerre les a renforcés. Alors peut-être que Donald Trump, dans ce cas, peut se dire, oui, avec eux, je peux avoir un dialogue ferme, mais au moins aboutir à quelque chose et faire un deal, parce que c'est ça le vrai.
On sent que l'obsession de Donald Trump est effectivement d'arriver à négocier un accord, et donc qu'il a expliqué pendant quelques décennies qu'il était passé maître en la matière. On est un peu moins certain de son efficacité au vu de ce qui se passe en Iran et de ce qui se passe là dans la négociation de l'accord. Il réussit, et vous avez cité tout à l'heure tous ceux qui sont sur place, il réussit à ne pas être là, mais à jouer quand même un rôle prépondérant, puisqu'il continue à pianoter frénétiquement sur son clavier pour envoyer des messages à peu près aussi délirants qu'à l'ordinaire.
Oui.
Vous nous aviez dit qu'il avait été sorti de la salle des opérations militaires.
C'était le New York Times ou le Wall Street Journal, voilà, je crois.
Parce que oui. Les gens avaient terriblement peur qu'à force de pianoter, ils finissent par révéler des secrets militaires. Ouais. Là, on lui a dit t'es sympa, reste aux États-Unis. On va envoyer, bien sûr, tes affidés, mais aussi deux ou trois personnes qui sont capables de parler. C'est pas grave, il continue à parler. Il insulte les Iraniens pendant les négociations.
Oui, il promet d'ailleurs en disant, si ça se passe mal, je vais anéantir. Vous n'aurez plus de pays, bon, déjà. Et il dit à la délégation, vous ne rentrerez pas dans votre pays. Ou vous n'aurez plus de pays vers lequel rentrer, quoi. Ça veut dire, c'est des menaces quasiment directes. D'où, hier, l'interruption de séance. Abbas Araghchi qui informe le Premier ministre pakistanais on le voit au milieu de la salle désemparé, il y a une image qui est incroyable, on voit le Premier ministre pakistanais, Araghchi qui vient lui parler, ensuite il regarde un peu autour de lui, derrière lui il y a les Américains, Jared Kushner, Steve Witkoff et
Jay Vance,
et on sent qu'ils ont compris ce qui était en train de se passer, parce qu'ils ont dû lire le message de Trump. Donc ils ont vu la tête d'Araghchi, ils voient désormais la tête du Premier ministre pakistanais qui a énormément investi, énormément dans cette négociation. Le Pakistan en fait un modus vivendi quasiment, et ce retour dans la diplomatie est très important pour le pays, pour le Qatar également. Et là, on sent le désarroi dans son regard, et on sent tout de suite que J.D. Vance et les deux autres se disent « il faut qu'on fasse bonne figure ». Donc ils vont voir le Premier ministre pakistanais, J.D. Vance se met à côté de lui, bombe le torse, et voilà, et donc il y a une sorte de... Voilà, on colmate les brèches,
On a l'impression qu'on est en train de, vous êtes en train de raconter un penalty qui va être tiré là.
Pratiquement parce que penalty ou plutôt carton rouge puisque les Iraniens après décident de ne pas poser en photo avec les Américains. Donc là voilà, il y a une mais l'arbitre revient sur sa première décision pour rester dans le football et finalement les Iraniens disent on va pas complètement rompre les négociations et les négociations vont bon train. Immédiatement après, message de J.D. Vance qui dit on a beaucoup progressé, tout va bien, etc. Parce que J.D. Vance, en même temps, il joue aussi l'avenir de son gouvernement dans la région, les intérêts des Américains, mais il joue aussi sa carrière à lui. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, de la part de Donald Trump, effectivement, qu'on peut qualifier de d'erratique ou de fou parfois, mais dans cette histoire, en fait, ce qu'on n'a pas complètement réalisé, c'est qu'il est sorti de la zone de turbulence dans laquelle il était. Quand il y avait ce blocage, quand lui exerçait le blocage, le blocus du blocus, les Iraniens bloquant Hormuz et les Américains empêchant les Iraniens de quitter la mer d'Oman, Donald Trump était seul face à la finance mondiale et à l'économie de la planète. Avec les hydrocarbures, il a été aidé par les Chinois qui volontairement ont irrigué la planète avec davantage de pétrole pendant ce temps pour que les prix n'atteignent pas 150 et 200.
Très bon article de Bertie Bayard dans le Figaro.
Exactement, sur le rôle de la Chine fondamentale qui montre d'ailleurs qu'elle est une puissance fondamentale et sage dans l'histoire. Et donc Donald Trump se retrouve en accusation pendant très longtemps. Maintenant qu'il a signé le mémorandum, le MOU, le mémorandum de compréhension, et que Pezeshkian, le président iranien, l'a signé aussi, ça y est, le processus est engrangé. Et qui se retrouve dans l'œil du cyclone, Netanyahou. Pourquoi Netanyahou? Donc, si vous voulez, il y a de la part de Trump un petit peu une vengeance aujourd'hui, c'est-à-dire aux yeux du monde entier, l'intransigeance de Netanyahou vis-à-vis du Liban empêche le deal d'avancer et donc met les Israéliens devant une sorte de il faut que vous arrêtiez votre guerre pour qu'il y ait la paix. C'est ça le vrai truc. Et donc ce n'est plus tant Donald Trump qui est visé, c'est Netanyahou, et on va le voir puisqu'on va parler du Liban, aujourd'hui c'est le point important qui embarque tout le reste. Les Iraniens se sont retirés, les Iraniens à cause des propos de Donald Trump, mais aussi dû au fait que les Israéliens continuent à frapper le sud Liban.
Alors les Israéliens continuent à frapper le sud Liban et donc tout le monde en a fait un point d'achoppement. Les Iraniens ont expliqué que dans l'accord en 14 points qu'on a fini par lire, c'était l'arrêt total des opérations, que ça concernait évidemment ce qui se passe au Liban. Israël ne veut pas s'arrêter au Liban. Le Hezbollah en parallèle refuse les négociations qu'il y a entre le Liban et Israël en parallèle des négociations américano-iraniennes. Et malgré tout, là, la clé dans le bras faite par les Américains à Israël a l'air de marcher. Je lis à l'instant, guerre au Moyen-Orient, Israël lève les restrictions de rassemblement près de la frontière avec le Liban. Donc autrement dit, on a l'impression que quand bien même il y avait une espèce de victoire militaire, inaboutie, mais quand même écrasante, en tout cas surtout écrasante pour les Libanais qui se sont fait massacrer par milliers et déplacer par
millions. Plus de 3 000.
Le glas sonne en fait pour l'armée israélienne qui va sans doute être obligée au minimum de s'arrêter, voire de commencer à reculer et de rendre aux Libanais les territoires conquis.
Alors, on n'en est pas encore là, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Américains et Iraniens ont décidé sur cette partie libanaise de travailler ensemble. Les Iraniens, évidemment, exerçant une pression sur le Hezbollah, et les Américains sur Israël. Donc il y a un comité de travail qui a été mis en place. Je sais plus comment la formulation, pardonnez-moi, j'ai pas retenu le nom, mais en tout cas il y a une cellule qui a été mise en place pour justement coordonner l'arrêt de la guerre au Liban de façon effective, c'est-à-dire de ne plus être On va dire que les Américains s'engagent, c'est pas simplement des vœux pieux ou des déclarations exercées à l'endroit de Netanyahou.
Il y a une cellule de gestion de conflit.
Voilà. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que on voit bien que sur le nucléaire, ça va être la même chose. Enfin, c'est déjà la même chose. Là, sur le nucléaire, on peut revenir sur ce détail, mais terminons sur le Liban en tout cas. Sur le Liban, cette cellule va permettre justement pied à pied d'observer les réactions des uns et des autres. Jusqu'à présent, quand il y avait violation du cessez-le-feu, que ce soit parce que le Hezbollah tend une embuscade aux soldats israéliens ou que Israël décide de bombarder, bah, il y avait tout de suite riposte de l'autre et tout à coup, bah, en fait, la guerre ne s'arrêtait pas. Le fameux cessez-le-feu unilatéral a été inventé par Israël au Liban Sud, c'est-à-dire principalement parce que le Hezbollah a parfois aussi rompu le cessez-le-feu. Mais Israël, c'était fantastique. C'était, oui, il y a un cessez-le-feu, mais nous, on continue quand même. Voilà.
Le général Yakovlev, à plusieurs reprises, a dénoncé d'ailleurs la dissymétrie. C'est-à-dire, effectivement, oui, le Hezbollah rompait le cessez-le-feu en envoyant des roquettes. Oui. Qui ne faisait aucune victime, je ne parle pas des soldats israéliens engagés dans leur guerre d'invasion, et Israël répliquait, elle, en ravageant littéralement le territoire et en tuant des milliers de civils.
Mais c'est en une rupture, et c'est très important ce que vous dites là, parce que c'est une rupture aujourd'hui dans les relations entre les Américains et les Israéliens, assumée par les Américains. C'est la première fois, quand il y a eu il y a deux semaines la conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, il lui a dit « tu vas rester seul face à l'Iran », c'est-à-dire « je n'irai pas au-delà, tu vas rester seul ». Il lui a dit « tu es haï par le monde entier, il n'y a plus que les États-Unis qui te soutiennent ». Donc là, il y a eu un discours, des mots qui ont été répétés et confirmés par Donald Trump, qu'un président américain n'avait pas prononcé à un premier ministre israélien depuis Ronald Reagan, quoi. Donc, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Trump a fait une partie on va dire, acté cette rupture, mais elle a été confirmée et amplifiée par J.D. Vance, qui a eu à l'endroit d'Israël, on sait qu'il a des relations très difficiles avec Benjamin Netanyahou depuis très longtemps, notamment sur la question de la Cisjordanie et de l'attitude des colons. J.D. Vance a beaucoup œuvré pour mettre Benjamin Netanyahou et son gouvernement à l'amende sur le comportement des colons en Cisjordanie. On sait que c'est un sujet sur lequel la diplomatie française tente d'agir aussi, mais on n'a que des mots. Là, les Américains, eux, ils ont autre chose derrière. Ils soutiennent les Israéliens militairement et c'est eux qui fournissent les armes. Donc, les Israéliens savent très bien qu'au bout d'un moment, si les Américains décident d'arrêter, ils n'ont plus d'armes. Donc, enfin, en tout cas,
C'est rigoureusement les mots de J.D. Vance qui leur a dit.
Ah, mais totalement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est affiché, c'est clair. Et J.D. Vance explique justement sur la question des frappes du Hezbollah et des ripostes israéliennes. Dit que à plusieurs moments pendant les négociations, et un en particulier, il dit « nous étions proches d'un accord et vous avez décidé de bombarder un immeuble à Beyrouth dans lequel il n'y avait aucune personne du Hezbollah ». C'est le vice-président américain qui dit « non, en fait, il y a tromperie. Vous, voilà, pour faire capoter l'accord, vous êtes capable de conduire des frappes. Et c'est pour ça que vous le faites. » Donc là, au moins, les choses sont claires, on va dire. Et ce qui est très intéressant, parce que J.D. Vance, quand je disais, joue sa carrière, parce que c'est une nouvelle forme de républicanisme aux États-Unis. On sait qu'il est anti-intervention, on sait qu'il est America First, il est vraiment le porte-parole des MAGA. Et c'est très intéressant que Trump l'ait mis à la tête des négociations. Il avait déjà eu ce même type de négociation à Islamabad, souvenez-vous. Elle n'avait pas donné suite, mais enfin, elle avait conduit quand même à un cessez-le-feu, le 8 avril dernier. Et donc, ça avait été le premier effort qui avait été fait. Et J.D. Vance avait pris la tête des négociations, remplaçant Witkoff et Kushner, qui eux étaient jugés par l'Iran comme faisant partie du camp Netanyahou, en fait, comme faisant partie de ceux qui ont précipité la guerre. Et donc, J.D. Vance est arrivé avec son pédigré base MAGA, c'est-à-dire rupture idéologique, isolationnisme des Américains, America First, finalement les promesses de base de Donald Trump. Et là, il le remet dans le jeu à nouveau, et c'est lui qui va charpenter la nouvelle relation avec les autorités iraniennes. C'est là où on est, là où Trump est intelligent, c'est-à-dire qu'il se, on va dire, désengage lui-même personnellement, même si il intervient et que ça peut tout faire capoter. En fait, il intervient en moyen de pression, on va dire. Mais on sent bien que derrière, J.D. Vance a tout. À toutes les cartes en main, et que c'est lui qui instruit ce type de comité, que c'est lui qui va discuter du nucléaire. Là, les Iraniens, pour la première fois, ont quand même dit « Nous sommes prêts à signer, à nous engager, par écrit, de ne pas avoir l'arme atomique, mais nous considérons que nous avons un droit à l'enrichissement ». C'est là où beaucoup de choses vont jouer, à savoir enrichissement contre levée totale des sanctions. Bref, on sent que l'Iran sait qu'il a des cartes. Maintenant, est-ce plus intéressant pour l'Iran de continuer ses recherches nucléaires, d'obtenir la bombe atomique et de se retrouver dans une situation à la nord-coréenne ou à la pakistanaise, c'est-à-dire maintenant j'ai la bombe, allez-y, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça aussi le... Ou alors de jouer la carte du business, de l'ouverture que va leur prodiguer cette nouvelle configuration, du fait que l'Iran va devenir un acteur régional majeur. Est-ce que l'Iran va aller vers, avec les 300 milliards de fonds de réparation pour les dommages de la guerre, avec levée des fonds gelés, c'est surtout ça qui intéresse les Iraniens, et concrètement peut-être un droit de passage sur Hormuz qui va enrichir ou remplir les caisses de l'État iranien pour des décennies. C'est ça, le choix, il est là, en fait. Et en effet, quand Trump dit, plutôt J.D. Vance dit, nous allons envisager une autre forme de relation avec les autorités iraniennes, peut-être que c'est là que réside finalement le futur de la région.
Alors, quand on pose l'alternative, soit je continue ma politique nucléaire jusqu'à me doter de l'arme atomique et en établissant un nouvel équilibre de la terreur, soit au contraire, je choisis de profiter de cette fenêtre inespérée. Sans cette guerre, l'Iran serait toujours une population enclavée, un pays enclavé, pardon, une population martyre, elle l'est encore, elle va le rester. On a effectivement le sentiment que l'Iran a aujourd'hui la meilleure chance de sa vie de sortir en fait de l'isolement dans lequel elle s'était peu à peu enfermée.
Vous savez, c'est très intéressant quand même cette émergence du gouvernement Trump. La même chose s'est arrivée à Vladimir Poutine. Quand Trump est arrivé au pouvoir et quand Trump a fait par exemple la rencontre d'Anchorage, la Russie qui était, on va dire, sous les feux de toutes les critiques du monde occidental, qu'on voulait cornériser, mettre à genoux, etc., tout à coup se retrouve avec la principale pièce du monde occidental, qui lui propose une alliance ou une nouvelle relation inespérée. Donc ce que Trump est en train de faire au niveau planétaire a d'ores et déjà bousculé les équilibres précédents et remis en cause le rôle de l'Occident, et en particulier celui des États-Unis. Donc là, pareil, le gouvernement iranien se retrouve, lui, avec une opportunité historique, c'est-à-dire celle d'exister véritablement et non pas d'être enclavés, réfugiés derrière leurs montagnes imprenables, d'une position de pays paria, l'Iran devient un pays avec lequel, parce que ayant vu sa capacité de nuisance, les monarchies pétrolières de la région, aujourd'hui, proposent des alliances à l'Iran. Une partie des fonds déjà débloqués l'ont été via les Émirats Arabes Unis, qui est l'ennemi de l'Iran, et qui a à peu près débloqué 3 milliards de dollars dans un premier versement. Le Qatar, lui, a 12 milliards de dollars de fonds gelés iraniens, pareil, qui est prêt à les rendre. Donc on se rend compte finalement que l'Iran a fait peur à ses voisins, qui ont vu d'abord deux enseignements, que ni Israël ni les États-Unis ne viendraient les aider, que les États-Unis ont préféré la défense d'Israël à celle de l'Arabie Saoudite, que les Iraniens étaient capables, s'ils avaient voulu pousser plus loin, d'anéantir toutes les économies de la région, donc de mettre un terme finalement à l'existence d'Abu Dhabi, de Dubaï, de Doha et de Riyad, que toutes ces villes étaient extrêmement vulnérables, et constatant ces faits, les puissances de la région se sont dit il vaut peut-être mieux d'abord qu'on ait des relations normales avec Téhéran, mais surtout que sécuritairement on cesse de déléguer constamment notre sécurité aux États-Unis pour aller voir d'autres acteurs. Ça peut être les Chinois, ça peut être les Turcs, voire les Russes, mais que les enjeux de sécurité de la région ne passent plus aujourd'hui par Washington, et que les fameux accords d'Abraham qui ont été votés pendant le précédent mandat de Trump, aujourd'hui sont quand même en passe d'être remis en question par beaucoup de ceux qui étaient sollicités pour en faire partie. Les Émirats arabes unis maintiennent leur alliance avec Israël et avec les États-Unis, et leur adhésion à ce pacte d'Abraham. L'Arabie saoudite, qui était censée reconnaître Israël, il n'en est plus question. Donc les choses ont beaucoup évolué. L'Arabie saoudite, on l'a oublié, a fait un pacte militaire avec le Pakistan, par exemple. Et même aujourd'hui, avec l'Iran, les choses sont en train. On voit bien que l'Arabie saoudite, pendant toutes les négociations, depuis le cessez-le-feu, menace de reprendre des hostilités, etc., ont fait pression auprès de Donald Trump pour ne pas que la guerre redémarre dans la région. Alors, il y a eu quelques poussées de fièvre, mais si on veut, globalement, depuis le 8 avril, on est passé dans une période de cessez-le-feu. Aujourd'hui, que la diplomatie est réunie dans le canton de Lucerne, que la diplomatie mondiale, il n'en manque pas un. Dans ce qui concerne ces accords, eh bien, je pense que on va arriver assez rapidement, enfin, en tout cas, vous savez, c'est 60 jours, il y a 60 jours pour dégager une trame qui est déjà bien, bien engagée, enfin, c'est-à-dire on voit que les désaccords sont manifestés, ils sont admis de part et d'autre, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Donc on va travailler à voir ce qui peut être monnayé, ce qui peut être échangé, et on finira par un accord. Voilà.
On finira par un accord, d'autant plus que Jean-Noël Barrot va arriver dans le canton de Lucerne. Oui. La France a délégué son meilleur élément pour courir au secours de la victoire, et j'ai été assez surpris qu'il n'ait pas été convoqué plus tôt. Non, j'arrête de dire n'importe quoi. Donc, Jean-Noël Barrot va vraiment se rendre en Suisse pour faire partie des négociations. Pourquoi, comment, quel est l'intérêt, à part son renom personnel, et encore ?
Écoutez, Richard, le président de la République française, Emmanuel Macron, a, on va dire, joué un rôle majeur en offrant les ors de Versailles à la signature, par le biais d'un dîner, de l'accord. C'est à Versailles que Donald Trump a signé l'accord avec le président iranien électronique. Donc, quelque part, la France a participé. Non, je plaisante, évidemment. Mais je crois qu'il faut... Il va falloir s'habituer. Là, il reste un an d'Emmanuel Macron. Enfin, je sais pas, après, certains disent qu'il ne voudra pas quitter le pouvoir ou qu'il trouvera une manière de...
Enfin, en théorie, légalement et institutionnellement, dans moins d'un an, c'est fini.
Dans un an, à la même époque, nous aurons un autre président. On sera peut-être à ce micro et on parlera du nouveau président. Mais pendant cette année, on va dire, qui reste... les Européens, c'est difficile de s'y habituer, mais ont pris les sièges arrière dans le véhicule. On est spectateur de ce qui se passe, alors que d'autres, je vais citer le Pakistan, le Qatar, la Turquie, l'Égypte, etc., sont beaucoup plus en pointe que nous. Aujourd'hui, on négocie à Lucerne, en Suisse. C'est bien pour la neutralité suisse, parce que la Suisse a tendance en ce moment à se faire grignoter par l'Europe. Il faut, à mon avis, pour la santé du monde, qu'elle reste neutre. C'est ce qui est cet endroit.
Il y aura une votation en septembre là-dessus, précisément.
Non, mais c'est très important ce qui est en train de se passer en Suisse. Parce qu'il y a des volontés de la part de l'Europe, justement, d'inclure ce pays. Non. Et donc là, il retrouve un peu des couleurs dans la diplomatie. Mais jusqu'à présent, on a remarqué que le centre de gravité diplomatique du monde, il s'était déplacé du côté d'Islamabad, du côté d'Antalya, du côté d'Istanbul... ou de Jeddah, ou de Riyad, Sharm el-Sheikh également, pour Gaza. Donc, c'est plus dans l'Europe occidentale qu'on négocie les traités de paix. Et Emmanuel Macron, le temps d'un soir, aura refait vivre à Versailles, des feux de la diplomatie internationale par la présence de Donald Trump. Mais c'est tout. Le reste du temps, nous sommes spectateurs. Voilà. On fait des coalitions. Les Anglais sont dans le même cas. Les Allemands sont dans le même cas. On regarde le train passer en se disant, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, c'est comme ça.
Eh bien, merci beaucoup, Régis Le Sommier, pour votre analyse.
Merci,
c'est le moment de rappeler que, puisqu'on parlait du Liban, vous avez sorti un excellent documentaire.
Il faut le regarder. Il est disponible sur l'application. Il s'intitule « Délivre-nous du mal ». Pris cette parole du Notre Père, parce qu'il s'agit de volontaires français, chrétiens, qui vont parcourir le Liban pour aider les populations dans le besoin, surtout les villages chrétiens du Liban Sud. Et c'est vraiment, moi je dis ce documentaire, j'aimerais qu'à un moment, Omerta, on le mette en accès libre sur la chaîne YouTube, parce que personnellement, enfin, j'ai fait beaucoup de documentaires dans ma vie, mais celui-là, j'ai une attache particulière. Pour moi, il est d'utilité publique de voir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes volontaires français chrétiens qui donnent une partie, 6 mois, 1 an de leur vie pour aller aider les autres dans un pays comme le Liban, au Liban Sud. C'est absolument admirable. Il faut les voir à l'œuvre. Ils sont, c'est des jeunes comme nos jeunes, et ils vont aider les autres en temps de guerre. Voilà.
Merci beaucoup, Régis Le Sommier.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
Merci.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite. La revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles Brochard. Voilà, bon. On a parlé du Liban, on a parlé de l'Iran, on a parlé de la Coupe du Monde du football et de ses prévarications. Mais tout ça n'est rien côté de Bruno Retailleau.
Bonjour Richard de Sèze, bonjour Franck et bonjour chers auditeurs. Alors on prend les mêmes et on recommence hein, avec dans les premiers rangs François Baroin, Gérard Larcher, Michel Barnier. Enfin bref, cela fait.
Ah non, vous avez oublié le seul jeune.
Oui, François-Xavier Bellamy. Oui, alors ça, bien sûr. Alors cela avait lieu au Parc Floral. La seule présence de Boualem Sansal pouvait ajouter un symbole pour l'ancien ministre de l'Intérieur, partisan du rapport de force avec le régime algérien, comme l'écrit le Journal du Dimanche. L'adversaire à abattre pour Bruno Retailleau est un système à bout de souffle. Après 10 ans d'En Marche, plus rien ne marche, a-t-il lancé. Après le réquisitoire, les propositions, donc réviser la Constitution pour élargir le référendum via l'article 11, l'objectif, se donner les moyens de réformer la justice et de contrôler l'immigration. Un état de droit ne doit pas s'opposer à la démocratie, déclare-t-il en citant l'historien Jacques Julliard. Et dans le Figaro, Othmane Nasrou, vous savez, l'un des plus proches soutiens de Bruno Retailleau, commente toutefois la dynamique attendue et pas encore advenue de la campagne du Vendéen, qui plafonne autour de 10%, hein, rappelons-le. C'est l'Everest, ce n'est que le début. Mais il y a un socle, il y a un produit Retailleau. Produit Retailleau, mais je ne sais pas si je remplace cette expression pour un de ses collaborateurs, qui marche et qui est identifié. On a réussi à installer sa candidature. Fin de citation.
Voilà, il y a un socle qui marche. On sent qu'avec ce genre de métaphore, ça va particulièrement dépoter. Ce qui occupe largement la presse, c'est bien sûr la canicule qui s'est répandue partout en France.
Oui, alors le thermomètre va monter à 38 degrés aujourd'hui à Paris, 40 ou plus dans certaines villes du Sud, hein, comme Bordeaux ou Pau. Comme l'écrit le Parisien, le ras-le-bol gagne progressivement les parents d'élèves de toute la France. En fait, une couleur sourde doublée d'une inquiétude qui a vu de nombreuses familles prendre le taureau par les cornes pour tenter de lutter contre les effets de canicule. Constatant un manque de réactivité des pouvoirs publics, des parents ont décidé de venir en aide aux écoles de leurs enfants. Alors que 845 écoles et collèges seront fermés en France dès aujourd'hui, tandis que 1800 établissements aménageront leurs horaires. Des exemples, le Parisien raconte qu'à Nantes, des parents ont repeint les vitrages de l'école maternelle Marianne du Bocage avec du blanc, de Meudon, je ne savais même pas que ça existait, afin de filtrer les rayons du soleil. Une technique également expérimentée par les familles du 11e arrondissement de Paris. Cependant, il y a eu des couacs comme le refus du rectorat à ceux qui voulaient offrir des ventilateurs à l'école élémentaire d'Amène dans le 11e arrondissement, invoquant des raisons de sécurité. Impossible d'introduire des appareils électriques non fournis par la ville. En revanche, la directrice d'une école parisienne a accepté que la coopérative scolaire achète un tuyau brumisateur normalement réservé aux activités activités et aux projets pédagogiques. Sinon, on peut lire aussi sur le site de Boulevard Voltaire que de grandes agglomérations proposent des cartes interactives d'îlots de fraîcheur. Alors, c'est le cas de Lyon ou de Poitiers, ville écologiste. Elle recense les oasis urbaines, SIC. Hein, là encore, on
parce
remarque...
Parce que normalement, oasis n'est pas féminin.
Ben non, mais là, c'est entre guillemets, c'est cité comme ça, c'est pour ça que ça m'a un peu étonné. Là encore, on remarque que ces oasis sont composées à majorité d'églises. Pudeur laïque oblige, elles sont représentées par des pictogrammes de temples antiques. De son côté, la ville de Grenoble, gérée par les écologistes, n'a fait aucune concession. La mairie d'Éric Piolle a préféré ne pas recenser les églises dans sa carte des lieux de fraîcheur. Bon, voilà. Et bien sûr, pas de climatisation. On en a dans les restaurants, on en a dans des hôtels, mais pas dans les écoles. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, 90% des écoles ont de la climatisation.
La France est très en retard. Il y a même,
dans les bus aussi,
il y a même un hôpital en train d'être construit où il n'y aura pas de climatisation dans la moitié des chambres. Hier, la fête de la musique a envahi les villes et les villages.
Alors, qu'est-ce qu'une fête de la musique, Richard ? Une fête militante pour certains qui n'ont pas hésité à privatiser la place de la République à Paris. Je veux parler évidemment de la France insoumise et de ses dérives oratoires. Je ne parlerai pas des drapeaux. L'étrange défaite de la musique, selon Vincent Trémollet de Villers. Comment ne pas penser à... Alors, ça, c'est moi qui ajoute, mais... Homo Festivus, le livre de Feu Philippe Muret, ses conversations avec Elisabeth Lévy. J'ai donné ce nom-là à l'habitant moderne de notre époque, écrivait Muret. La fête qui était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne est devenue le tout de la vie quotidienne. Il y aurait beaucoup à disserter là-dessus.
Eh bien, à défaut de disserter là-dessus, on va écouter Éric Zemmour justement en disserter avec le suicide français.
Oui, alors c'est diffusé cette fois par la chaîne Planète à partir de demain. Il s'agit d'une adaptation donc de son livre publié initialement par les éditions Albin Michel et qui ressort aujourd'hui chez Fayard dans la collection de poches plurielles. Dans ces 4 épisodes, Éric Zemmour déambule dans Paris un peu à la manière de Stéphane Bern et Laurent Deutsch dans leurs émissions historiques, écrit Florian Anselme dans le Journal du Dimanche. Il rembobine puis déroule 50 ans d'histoire de France, 5 décennies de transformation qu'il considère être un suicide français. Et comme l'a confié Éric Zemmour, j'estimais qu'il y avait là une matière qui pouvait très bien se prêter à l'image, car j'y retrace une période où la télévision est devenue omniprésente dans les foyers. Il raconte qu'il était fasciné par l'époque de l'ORTF. D'ailleurs, la série commence par la fameuse déclaration de Georges Pompidou novembre 70, quand il dit « La France est veuve ». Donc il y retrace par ses émissions documentaires ou par des écrits historiques que diffusait cette télévision. J'aimais cette idée que la télévision puisse raconter l'histoire collective. Comme dans le livre, il utilise des chansons, des extraits de films, des différentes décennies. En 2014, j'écrivais pour alerter, dit-il. Désormais, je veux mobiliser. Je me suis toujours considéré avant tout comme un écrivain. Ainsi, j'utilisais le livre ou la presse, aujourd'hui, la télévision et l'image, mais l'intention reste la même, intervenir dans le débat des idées. Donc c'est à voir les mardis 23 et 30 juin à 20h55 sur Planète Plus, et c'est disponible sur Canal Plus aussi, donc c'est 4 fois 52 minutes. Il y aura 2 épisodes mardi et 2 épisodes la semaine prochaine.
Alors, l'ancienne résidence présidentielle à Rambouillet sera ouverte au public le 1er juillet.
Oui, alors Philippe Viguier-Desplaces nous fait visiter dans le Figaro ce château où Charles X abdiqua, on s'en souvient, et qui doit beaucoup à Valéry Giscard d'Estaing. Un appartement de 350 mètres carrés, à l'agencement un peu tordu. Dans la chambre du couple présidentiel, on trouve un grand lit Louis XVI en bois doré, des assises de velours, un grand tapis de la Savonnerie, une commode Louis XVI, un bonheur du jour et une table gigogne. Et sur un valet, une chemise de Valéry Giscard d'Estaing, brodée à son chiffre, semble attendre que le président s'en saisisse. La chambre s'ouvre sur le ravissant boudoir de Madame Giscard d'Estaing, qui épouse les contours d'une petite tour.
Elle n'était pas si grosse.
Et un peu plus loin, la chambre des enfants, qui fut occupée d'ailleurs notamment par Martin Gray, venu y passer des week-ends avec sa grand-mère, Bernadette Chirac. Tout est daté, mais tout est figé, écrit Viguier-Desplaces. Figé dans une magnifique indolence. Et Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, abandonna à son premier ministre François Fillon le domaine de Rambouillet en échange du pavillon de la Lanterne, jadis dévolu aux locataires de l'hôtel Matignon. Jean-Marc Ayrault, sous François Hollande, fréquenta un peu le château, qui perdit en 2018 définitivement son statut de résidence présidentielle et fut attribué peu après au centre des monuments nationaux. Voilà, donc c'est le château de Rambouillet qui s'ouvre au public début juillet.
Merci Gilles. Et alors Maïlis, une petite nouvelle dans cette zone libre qui se finit doucettement.
Zone libre.
Bien oui, écoutez, cher Richard, donc on n'en finit plus avec les cyberattaques, puisque la Fédération sportive de la police nationale a été victime d'une cyberattaque d'une grande ampleur, hein. 224 000 policiers exposés. Voilà, donc c'est revendiqué par un cybercriminel utilisant un pseudonyme Misère, voilà, donc ça en dit long, et qui est déjà associé à plusieurs publications de données sensibles ces dernières années. Et donc, ce qui est particulièrement touché, c'est la messagerie instantanée du secteur public. Donc bon, nos données ont encore de beaux jours devant elles.
N'oubliez pas, chers concitoyens, numérisez votre vie, l'État français vous protège. Bonjour Magda.
Bonjour Richard. Moi, je voulais juste vous dire que si certains à Paris n'avaient pas eu la chance de trouver un endroit où profiter de la fête de la musique à cause du monde, le zoo d'Amnéville a proposé un concert à ses animaux, voilà, ses orangs-outans, ses girafes, ses petites otaries qui ont le droit à un petit concert de piano en privé.
Ah, c'est super, excellent. C'est super ouais. Mignon.
Et c'est alors, de l'ordre de barbarie, non, qui joue le... Pardon. Pardon.
Et les girafes ont témoigné de leur admiration, les otaries ont été de véritables critiques musicales.
Tout à fait touchées.
Elles applaudissent beaucoup, les otaries.
Les otaries, elles ont...
Exactement. Merci, Gilles. Camarade Alice.
Et ben moi, je vais vous parler de chameaux et dromadaires et yaks qui investissent et s'installent dans le stade d'athlétisme. Donc, histoire de pouvoir faire un peu de sport. Ou ça, je ne sais pas.
On a décidé d'organiser des compétitions d'athlétisme entre animaux exotiques.
Oui, on peut dire ça.
Mais elles sont
très... Bon, c'est bien parti, c'est bien.
Bon, oui.
Pour lutter contre la canicule, on a une lumière hein, qui n'est autre que Valérie Pécresse qui recommande aux franciliens ceux qui peuvent en tout cas d'éviter les transports. Voilà.
Donc
la dame qui certainement prend que des Uber ou des taxis climatisés, eh bien là invite les Parisiens à éviter les transports. Oui, voilà. Parce qu'on n'a peut-être pas tous son portefeuille. Hein, voilà.
De toute façon, la SNCF a déjà décidé de supprimer un certain nombre de transports. Voilà. Donc.
Et puis il y a un confinement de toute façon qui est élaboré aujourd'hui puisque près de 1000 établissements sont fermés, donc les enfants restent chez eux, confinés chez eux.
Et rappelons que la circulation automobile aussi est réservée qu'aux vignettes 0 et 1, tous les autres, dehors.
Voilà, et les trottinettes.
Et les trottinettes. Vous roulez au diesel avec votre trottinette, Gilles ?
Merci à tous d'avoir animé cette zone libre. Il faudra revenir sur le coup de ces yaks en train de jouer de l'athlétisme pendant que les girafes jouent de la trompette. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été sur cette zone libre. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'à maintenant sur YouTube et sur X. C'est le moment de vous signaler que pour que ça continue, il ne faut pas que vous cessiez de donner et même il faudrait que vous donniez un tout petit peu plus.
Voilà, un peu plus. Vous êtes à peu près 2% à donner à Radio Courtoisie sur les milliers, dizaines de milliers, même centaines de milliers à écouter cette radio chaque jour. Alors s'il vous plaît, aidez-nous en allant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou en envoyant un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Un grand merci d'avance.
Eh bien, et avec tout ce bel argent, on fera de belles émissions, mais on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, nous réécoutons la première entretien de cette matinale. C'est Rémi qui nous parlait du site Ma France attaqué par le groupe SOS.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Rémi qui a créé une application, mafrance.app, qui a créé un site internet, et où Rémi, en fait, est attaqué par le groupe SOS Racisme. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, le groupe SOS porte plainte contre vous, plainte contre X, pour, je cite, « provocation publique à la discrimination et à la haine en raison de l'origine et de la religion », après avoir constaté que plusieurs établissements d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile que gère le groupe SOS Racisme figurent sur la plateforme Ma France. Alors, effectivement, quand on va sur le site Ma France, on voit quand on va sur le site du groupe SOS, on voit qu'ils ont porté plainte contre vous. Ils expliquent que vous êtes un créateur anonyme, que cette plateforme propose une cartographie du territoire français fondée sur des indicateurs tels que immigration, islamisation et défrancisation, et la référence des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile est associée à la présence, à une représentation anxiogène des territoires. Alors, comment réagissez-vous à la manière dont le groupe SOS porte plainte contre X ?
D'abord, je vous corrige un petit peu. Vous avez mentionné une plainte de SOS Racisme. Alors, je crois
non, groupe SOS, plainte, le groupe SOS, pardon.
C'en est une autre. Ce groupe SOS est un groupe différent qui opère différentes entités, dont des centres d'hébergement pour migrants. Le site mafrance.app se contente de reprendre des informations qui sont déjà publiques. Par exemple, l'adresse précise de ces sites est directement présentée sur le site internet du groupe SOS, tout simplement, ainsi que sur des bases de données complètement publiques et officielles. Le but du site mafrance.app, c'est de cartographier des changements sur 5 thématiques différentes. J'insiste sur le fait que les thématiques sont différentes. Donc effectivement, ces thématiques qui sont de l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, le changement culturel et l'interventionnisme social, représentent, intègrent chacune différentes métriques. Et une des métriques pertinentes à l'échelon local pour mesurer le changement de l'immigration, c'est la présence.
Allô ?
Oui.
Non, je ne vous entendais plus, c'est pour ça. il y a ces différentes métriques, et justement, les métriques du groupe SOS, vous les rangez dans quelle catégorie ?
Alors, c'est bien évidemment rangé dans la catégorie d'immigration.
Voilà. Et donc, cette catégorie immigration, c'est une catégorie qui permet d'avoir des chiffres publics qui sont disponibles en accès libre, y compris sur le site du groupe SOS. Et donc, il n'y a pas de lien qui est fait entre insécurité et immigration. C'est juste un ensemble de données qui permettent de montrer quel est l'état de l'immigration en France, sa diffusion territoriale, ses implantations. Voilà, autrement dit, et je le répète pour la troisième fois, ce sont des données publiques auxquelles tout le monde peut avoir accès. Vous vous contentez en fait de les rassembler et de les mettre à disposition sous une forme simplifiée à tous ceux qui ont envie de les connaître.
Absolument. Et l'interprétation qui en est faite appartient aux utilisateurs du site.
Voilà. Cette appli mafrance.app, votre méthode, c'est d'aller sur certains indicateurs, des métriques, comme vous dites, c'est d'aller chercher les données dans les sites gouvernementaux, dans les sites des opérateurs comme Groupe SOS, etc. Est-ce qu'elles sont difficiles à trouver, ces données ?
Eh bien, étonnamment, pas du tout. Elles sont très faciles à trouver. Elles sont tout à fait disponibles. La dernière métrique en date que j'ai rajoutée sur le site, c'est les taux d'attribution de logements sociaux par nationalité pour l'ensemble des communes françaises. Et on y trouve des informations très intéressantes. Par exemple, le fait que dans certaines villes françaises, à Nantes, 60% des logements sociaux en 2025, ont été attribués à des personnes de nationalité étrangère qui n'ont pas la nationalité française. C'est-à-dire que seulement 40% des logements sociaux ont été attribués à des Français. Et dans ces 60% attribués à des étrangers, les étrangers européens, donc de l'Union européenne, ne représentent que 5%. Donc 55% des logements sociaux à Nantes ont été attribués à des étrangers hors Union européenne. C'est intéressant.
C'est intéressant. Comme vous le dites vous-même, en fait, vous publiez les données et ensuite, à charge pour chacun de se faire une opinion sur la signification de cette donnée. On voit là, par exemple, évidemment, qu'à Nantes, il n'y a pas trop de préférence nationale. Et le groupe SOS, lui, estime, dans la plainte qu'il a adressée au procureur de Paris, que le site, je cite, « contribue à susciter un sentiment de rejet et d'hostilité envers les populations étrangères ».
Je pense que c'est l'interprétation, comme je le disais, chacun est libre de sa propre interprétation des données présentées sur le site, donc je pense qu'il s'agit surtout de l'interprétation personnelle du groupe SOS.
Alors, et néanmoins, le groupe SOS, donc toujours dans sa communauté, poursuit que les créateurs du site qu'ils attaquent avec la plainte déposée contre X revendiquent explicitement une logique d'évitement et ils citent une publication diffusée sur le réseau social X associé à la plateforme. Envie de savoir où se trouve le centre pour migrants le plus proche de chez vous, pratique pour le prochain déménagement. Donc effectivement, on pourrait considérer que vous suggérez que habiter juste à côté d'un centre pour migrants n'est pas le meilleur des emplacements possibles.
Ou l'inverse. J'ai déjà eu des utilisateurs musulmans qui m'ont remercié de leur signaler la présence de mosquées ou de boucheries halal afin qu'ils puissent s'en rapprocher ou trouver un logement adéquat.
Voilà. Et c'est vraiment très important. On voit bien que Groupe SOS considère que, par principe, le fait de rendre visible la carte des centres d'accueil pour migrants et aussi, ce n'est pas la première plainte à laquelle vous faites face. Si je me suis trompé tout à l'heure, c'est que SOS Racisme avait effectivement saisi la justice au début de l'année 2026. Donc, il y a SOS Racisme au début de l'année, Groupe SOS en juin 2026, c'est que le fait de rendre public et visible, surtout avec les cartes graphiques que vous mettez en place, la présence de l'immigration ou la carte de l'insécurité, enfin les cinq thématiques que vous avez choisi d'explorer, serait comme une espèce d'attaque contre une bien-pensance qui considère qu'en fait que cette information est secrète car elle n'est pas certaine de pouvoir maîtriser l'interprétation que les gens en font.
Effectivement, c'est une possibilité. Ça me semble assez étonnant parce que pour l'exemple des centres de migrants, l'intégralité des hébergements de migrants sont financés par le contribuable français. Donc, je pense que l'exigence d'information est importante en démocratie et la liberté d'information également. Si on revient sur le groupe SOS, le groupe SOS parmi les plus de 300 entités qui gèrent des centres de migrants, en fait, n'est que le 12e en taille. Il n'opère que 5860 places sur les 340 000 places d'hébergement de migrants qui sont présentes dans différents sites en France. Et par exemple, des organisations de taille plus importante, comme Adoma, Coalia, la Croix-Rouge, France Terre d'Asile, Emmaüs ou l'Armée du Salut, opèrent plus de centres et plus de places d'hébergement. Je voudrais signaler aussi que cette information est également publique, que le coût des centres de migrants, le coût des places par jour, varie entre 19 euros et 137 euros par jour. Donc 19 euros qui va être la moyenne pour le logement en résidence sociale et 137 euros par jour qui va concerner ce qu'on appelle les mineurs isolés. Donc ça représente presque 3 SMIC par an pour le coût du logement et de prise en charge des mineurs isolés.
Alors, quand le groupe SOS vous attaque en expliquant que chaque jour, les équipes du groupe SOS accompagnent des personnes ayant fui la guerre, les persécutions, les violences ou des situations d'extrême précarité et que leur structure assure des missions essentielles d'accueil, on a l'impression qu'ils vous accusent en gros de stigmatiser et de mettre en danger et les populations accueillies et les gens qui les accueillent. Une fois de plus, il suffit d'aller sur le site du groupe SOS pour trouver l'intégralité des adresses.
Absolument.
Voilà. Donc, pourquoi...
Donc, je pense que c'est un procès d'intention.
Tout à fait. Pourquoi le journalisme citoyen est-il à ce point-là dangereux aux yeux des associations humanitaires ?
je pense que la réponse est certainement dans leurs questions et dans leur et dans la rhétorique qu'ils utilisent. Ils font un travail qui peut être utile pour la société, et je pense que s'ils le font, ils devraient en être fiers et le clamer haut et fort, plutôt que de s'offusquer qu'on en parle.
Voilà. Alors, d'autant que Groupe SOS veut aller plus loin. Le Groupe SOS appelle l'ensemble des associations, fondations, acteurs de la solidarité, collectivités, gestionnaires d'établissements sociaux concernés à se mobiliser collectivement et à soutenir toutes les démarches visant à obtenir le retrait de cette plateforme. Une fois plus, il s'agit d'obtenir le retrait d'une plateforme qui met sous forme cartographique des données publiques auxquelles tout le monde a accès. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'une information publique, accessible, ne soit pas présentée de manière pédagogique et claire. Est-ce que c'est véritablement le rôle d'un groupement comme d'un groupement solidaire comme Groupe SOS que d'affirmer que l'information est en fait un produit dangereux?
Je ne sais pas répondre à votre question.
Ma question était un peu orientée, vous avez parfaitement raison. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ces musulmans qui vous ont remercié de leur indiquer, grâce à vos cartes, sur par exemple l'emplacement des boucheries halal ou l'emplacement des mosquées, et donc de vous indiquer qu'ils vous ont remercié en étant capable, justement sur la base de vos applications et de vos cartographies, de trouver un lieu qui leur permettait de pratiquer leur religion et de satisfaire leurs coutumes alimentaires.
Oui, tout à fait. J'ai eu des retours positifs dans ce sens.
Et ce genre de retour, vous comptez sans doute les mettre en avant si la plainte déposée par le groupe SOS aboutit, parce que évidemment le fait de déposer une plainte et d'en faire la publicité, c'est une chose. Le fait que la plainte soit instruite et débouche sur une action en justice, c'est une autre étape.
Alors nous verrons le cas échéant. Moi, je me réjouis que toutes les personnes qui trouvent un intérêt au site le fassent, quel que soit l'intérêt qu'ils puissent y trouver. Donc la mise à disposition d'informations permet à chacun de se faire son opinion et de l'utiliser suivant ses propres centres d'intérêt.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup Rémi pour d'abord ce travail remarquable, une fois plus, de mise en forme d'une information accessible, et bon courage dans votre combat que nous suivrons avec attention.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Chers amis, ah non, oui, non,
c'est oui, ça. Oui, chers amis, ça commençait bien déjà.
En fait, non, pas du tout, ça s'appelle un bête, justement. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il va falloir, malgré tout, vous dire une dernière fois, aujourd'hui, mais on va vous le redire demain et après-demain, à quel point nous avons besoin de votre soutien. Radio Courtoisie est attaquée, évidemment, par l'ensemble des médias de gauche. Radio Courtoisie risque aussi, en tant qu'association, de souffrir de ce que Éric Coquerel et LFI veulent mettre en place, c'est-à-dire la suppression d'un certain nombre de droits associatifs, comme par exemple, si vous nous soutenez, de recevoir un reçu fiscal. Eh bien, Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et militant LFI, considère que ce n'est pas normal que les associations de droite puissent émettre des reçus fiscaux. Donc il part en guerre contre ça. C'est une enquête absolument passionnante que L'Incorrect, Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie et d'autres médias ont menée contre les associations de gauche qui considèrent être les seules à être capables de recevoir de l'argent public, car elles seraient les seules à défendre l'intérêt commun. Et bien, en attendant que notre enquête fasse bouger les choses, n'hésitez pas, donnez-nous, soutenez Radio Courtoisie.
Voilà, et pour soutenir Radio Courtoisie, il faut aller sur soutenir.rc.fr, c'est la chaleur, soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne. Et l'enquête dont parle Richard, eh bien, c'est à suivre à 17h30 dans Restons Courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet et son équipe. Alors un grand merci d'avance à ceux qui pourront nous aider.
Et avec cette aide, non seulement vous continuerez à financer Radio Courtoisie, donc vous continuerez à défendre vos propres idées, mais en plus vous permettrez à un nombre incroyable d'excellentes émissions d'avoir lieu.
Absolument, comme Le Monde de la Philosophie d'Élie de Thoras dans quelques secondes, quelques philosophes politiques importants. À midi, le libre journal de la transmission dirigé par Valérie Daubigny. Aujourd'hui, les éditions du Triomphe, un nouveau souffle avec Thibaut Dary. Et parmi les autres rendez-vous de la journée, culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry. Aujourd'hui, la dérive des grandes écoles françaises et les voyous au pouvoir ou l'ère Macron. 17h30, restons courtois donc avec Pierre-Alexandre Bouclet. Il y aura d'autres sujets. propos de l'Institut La Boétie. Par exemple, le think tank de Mélenchon détourne-t-il l'argent public? Le bilan d'une fête de la musique sous haute surveillance et le procès de Thaïs Descuffon. À 19h30, le libre journal du lundi soir de Thierry Lenz. Et à 21h30, la soirée musicale proposée par Claudia. Aujourd'hui, l'église de la Madeleine, dernière partie. Voilà.
Voilà. Et donc, ce sera parfait. Nous, demain, bien sûr, nous serons là dans la matinale.
Et bien, on sera là dans la matinale à partir de 7h. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir, Richard.